של שבועות. Bon, on va pas parler des, pas tout de suite, en tout cas parler des Aseret HaDibrot ou des choses comme ça. On va parler de quelque chose qui est un peu moins connu. À Shavuot, c'est l'anniversaire de la naissance et aussi de la Ptira du roi David. Le roi David est né à Shavuot. Et donc on va parler un peu de, du roi David. Et quand on veut parler du roi David, on est obligé de regarder un petit peu d'où il vient. Alors, on sait les choses les plus connues. On sait que David est le fils de... Mais si on remonte aussi haut qu'il faut remonter, David est le moment très important dans l'ascendance de David Amener. C'est que pour que David Amener soit de l'ascendance royale, il faut qu'il soit de la tribu de Yehuda, qui est la tribu. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à la tribu de Yehuda dans l'ascendance? Celui qui est de cette tribu-là, c'est Boaz. Et Boaz, c'est l'ascendant de David. Il a créé, il a eu un enfant qui donc est un ancêtre de David Amener. Et David Amener, pardon, et cet ascendant, Boaz, il a eu un enfant avec une femme qui est connue, qui s'appelle Ruth. Et cette Ruth, Ruth, c'est une princesse, enfin, initialement, c'était une princesse moabite. Alors, on va parler ce soir de Ruth, d'abord, parce que c'est comme ça qu'on peut mieux comprendre qui est David. Donc, si vous voulez, à la limite, c'est pas les parents directs, mais c'est les ascendants qui sont très importants pour David Amener, c'est le fameux couple Ruth et David. Ruth et Boaz, pardon. Alors, juste deux mots pour rappeler un peu la situation. Il y a eu... On lit à Shavuot, on a l'habitude de lire la Megillat Ruth, justement à cause de ça. Parce que c'est dans Megillat Ruth qu'on trouve l'ascendance du roi David. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on lit la Megillat Ruth à Shavuot. La Megillat Ruth, elle raconte qu'il y a eu une famine en Eretz Israël. Et puis, il y avait un des grands Richards qui a eu une attitude pas très noble. Il a compris que, c'est la famine, donc tout le monde va venir lui demander de l'aide. Ben, lui, il a fui. Il est parti. Il est parti, il a pris sa femme, qui s'appelait Naomi. Ils sont partis, ils sont allés dans le pays de Moab. Et c'est des gens qui sont arrivés là-bas, comme c'était des gens fortunés, bon, ils ont pu entrer dans la société, au point que leurs deux fils d'Elimelech, qui s'appelle, et Naomi, ont épousé des princesses moabites. Ça a vite dégradé, hein. Les deux fils sont morts. Et les princesses, elles étaient très proches de leur belle-mère, Naomi. Et Naomi, quand elle s'est retrouvée veuve, etc., et ayant perdu ses deux fils, elle s'est dit, je retourne chez moi, quoi. Je retourne à Bethléem, je retourne dans le territoire de la tribu d'Yehuda. Et les deux belles filles, elles partent avec elle. Elles veulent continuer avec elle. Et en chemin, Naomi, elle essaie de les dissuader. Elle leur dit, vous n'avez rien à attendre. Qu'est-ce que vous allez gagner à aller là-bas? Vous êtes des princesses à Moab. Restez à Moab. vous allez, moi j'ai rien à vous offrir, j'étais peut-être aujourd'hui une femme très importante, j'étais en son temps une femme riche, une femme très en vue, je ne suis plus rien, je ne suis plus rien, je suis une pauvresse, partager ma pauvreté. Bon, elle a essayé de les dissuader. Elle a réussi avec l'une d'entre elles qui s'appelait Orpa. Et Orpa, elle a embrassé Naomi, puis elle est partie. Et pour qu'on prenne la mesure de ce que c'était, de la hauteur à laquelle elle était, cette Orpa, quand elle est partie, c'est que, on dit que quand elle est rentrée, elle est retournée, elle est tombée dans une débauche pas possible. Et bon, elle a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et elle va avoir un descendant qui a aussi a fait une carrière. Son descendant s'appelle Goliath. Le descendant de Orpa, c'est Goliath. Et Ruth, elle a continué avec sa belle-mère. Et quand elles sont arrivées, alors elles ont vécu la vie des pauvresses, quoi. Elles ont allé glaner, etc. Enfin, c'est surtout Ruth qui allait glaner et tout. Et puis Ruth, elle avait un comportement qui était vraiment très, très spécial, très marquant, très plein de tzniout, etc. Donc, elle a bien été par Boaz. Et puis un jour, Naomi lui a dit, écoute, Boaz, c'est notre proche parent. Et quelque part, Boaz, il pourrait nous redonner quelque chose dans nos biens, mais il faudrait en même temps, il faudrait que tu l'épouses, quoi, quelque part. Alors, Naomi va pousser Ruth à quasiment aller, c'est lui, en tout cas, d'aller effectivement retrouver Boaz, qui est un Talmid Chacham, mais déjà un vieillard. Et bon, finalement, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant. Et cet enfant est donc l'ancêtre de David. Le problème de Ruth, c'est qu'elle était une Moabite. Et comme vous savez, c'est marqué « Lo yavo Ammoni ou Moabi ». Un Ammoni et un Moabi ne peuvent pas se convertir. Ils ne sont pas admis à la conversion dans la Torah, dans le Christ. Pourquoi? C'est marqué parce que ils ont eu une attitude qui n'est absolument pas acceptable. Il y a une tradition dans le désert, etc. Quand les gens sont dans le désert, on vient toujours, les gens viennent à leur rencontre, ils offrent du pain, de l'eau. Et eux, ils sont pas venus à la rencontre des Bnei Israël. Quand les Bnei Israël étaient dans leur pérégrination, ils ne sont pas venus à leur rencontre. C'est une disqualification. Bon, il faut dire encore un mot de plus quand même, parce que qui est Ammon et Moab, qui donnent naissance à ce peuple, Ammoni et Moabi. Vous les connaissez, Ammon et Moab sont très, très connus. Parce que Ammon et Moab sont les deux enfants ont tué avec leur père. Vous savez que quand il y a eu destruction de Sodome, tout était complètement dévasté et les filles de Lot, elles ont pensé que le monde entier était dévasté. Elles ont pensé que elles et leur père étaient les seuls survivants de l'humanité. Elles ont eu un sentiment, un réflexe, ou une sentie responsable. Assurer la pérennité de l'espèce. Comment assurer la pérennité de l'espèce? Le seul mal qu'il y avait là, c'était leur père. Et donc, elles ont décidé d'enivrer leur père. et d'avoir un rapport avec lui. Donc, elles ont fait chacune son tour, première. Elles ont eu deux enfants. La première a eu un enfant qui s'appelle, qu'elle a appelé Moab. C'était pas très, c'est Moab, ça veut dire c'est mais de mon père, quoi. Elle annonce la couleur, quoi, que son enfance, elle l'a eu avec son père. Et la deuxième, elle a appelé Amon. C'est construit sur la notion de âme, de peuple. Et donc, ces deux enfants-là sont des enfants incestueux, bien sûr. Mais, à la limite, en gros, on a l'impression, d'après le texte, que Lot était plus ou moins inconscient de ce qui lui arrivait. En tout cas, dans le premier cas. Dans le deuxième, on lui reproche de s'être laissé enivrer parce qu'il a quand même, même s'il n'a pas su vraiment ce qui s'était passé avec la première, quelque part, dans le texte, on voit un remez, une allusion qui pourrait faire penser que il a un petit peu compris quelque chose, mais il a laissé faire, il s'est laissé enivrer. Et donc, le pasouk dit, Amoni et Moavi ne peuvent pas entrer dans le clan d'Israël. Pas parce qu'ils sont d'origine incestueuse, mais parce que ils se sont conduits comme on se conduit pas à l'égard de quelqu'un qui est dans le désert. Semble-t-il, c'est à ce point disqualifiant. Et par conséquent, Ruth étant une princesse Moabite, elle peut pas se convertir. Selon justement, à cette époque-là, il y avait une grande discussion dans le Sanhedrin pour savoir si, au fond, l'interdit ne concernait pas que les hommes. Le raisonnement étant que qui est-ce qui doit sortir à la rencontre des gens, ce sont les hommes. C'est pas Tanoua que les hommes sortent à la rencontre des gens. Et par conséquent, avec ce raisonnement-là, on a discuté et ils sont arrivés à la conclusion, on a tranché, que l'interdit il est Moabite mais pas Moabite. Que les femmes de Moab, elles peuvent se convertir. Et cette question-là, c'était une question qui était justement débattue à cette époque-là. Mais bon, alors, la halakha, elle avait été fixée, c'était comme ça que les femmes pouvaient se convertir. Mais il y avait des gens qui étaient réticents, parce que comme toujours, il y avait des gens plus pieux que les autres, qui en fait ne respectent pas vraiment la halakha, et qui n'auraient pas voulu épouser Ruth. Et donc, dans un processus qui ressemble un peu à du hiboum ou un problème d'héritage, c'est un peu complexe, je ne vais pas entrer là-dedans maintenant, c'est la personne la plus proche de Naomi, donc de Ruth aussi, puisqu'elle est sa belle-fille, si on admet qu'elle peut se convertir, donc c'est très compliqué. Bref, c'est comme si, à travers Naomi, ou plutôt à travers Ruth, c'était avec Naomi qu'on entrait en famille et avec un processus qui ressemble à du hiboum, on acquérait aussi les territoires, etc. Celui qui était le plus proche, qui aurait dû faire ce travail, il ne voulait pas le faire parce qu'il disait, mais moi, cette histoire de que les femmes de Moab peuvent quand même se convertir, c'est tout frais, ça peut me déranger, ça va m'empêcher de faire des bons chidourim pour mes enfants, je veux pas. Et celui qui a accepté, c'est Boaz. Boaz, lui, il a accepté. Bon, on verra après comment ça se passe. En tout cas, voilà, l'ancêtre, si maintenant on remonte, chez David. Donc, d'un côté, il est de la tribu d'Yehuda. Donc, il est d'ascendant, il est d'ascendance royale, si on peut parler. Il peut devenir roi. Et d'un côté, il a un côté descendant de Moab, que les ennemis de David se sont pas privés de le lui jeter à la figure, de considérer que il était un moins que rien parce que c'est un fils de converti, enfin descendant de converti, avec tout le monde n'était pas d'accord, etc. Donc on lui a beaucoup reproché à David, jeté à la figure, ben, pour l'embêter, quoi. Le traiter de descendant de Moab, donc quelque part illégitime, quoi, quelque part. Maintenant, cette route, c'est un personnage tout à fait hors du commun. Il y a un pasouk dans la Megillat Ruth qui dit que au moment du mariage entre Boaz et Ruth, les gens, le peuple entier, qui était admiratif de Boaz et qui était aussi admiratif de Midot, du comportement de Ruth, qui était un comportement tout à fait exceptionnel, ils lui ont dit, ils ont donné une bracha. Iten Hashem, ils l'ont donné comme bracha. Iten Hashem, qu'Hashem donne, et Aisha Habaal Betecha, que cette femme qui maintenant entre dans ta maison, il s'adresse à Boaz, qu'elle soit que Rachel ou Léa, qu'elle soit comme Rachel et Léa, Asher Banu, qui ont construit Shtel les deux ensemble, et Beth Israël, etc. Ça continue. Donc, quelque part, c'est que Ruth soit comparable à Rachel et Léa. C'est énorme, quoi. Quoi, en ce sens que elles ont construit Beth Israël. Elles ont construit la maison d'Israël, c'est sûr. Rachel et Léa ont construit le peuple juif. Le Briskorov, sur ce pasouk, explique que, qu'est-ce que c'est que cette bracha, comment elle s'est réalisée. Il dit parce que c'est réalisé en ce que Ruth construit Malchut Beth David. Et elle est, ça, elle devient comme une, elle est comparée à Rachel et Léa. Rachel et Léa, ce sont les matriarches. Donc, elle est comparée aux matriarches, elle est vue comme une mère. Comme la mère qui construit une maison. Elle est réputée la constructrice de la royauté de la maison de David. Et elle est appelée Ima Shel Malchut, la mère de la royauté. La vraie royauté dans le clan d'Israël, bien que Shaoul ait été roi, la vraie royauté, c'est toujours David qui est présenté toujours, David Melech Israël. Or, David Melech Israël, c'est plus que David. C'est David en tant qu'il est Melech Israël, si vous voulez, la réalisation concrète de la royauté d'Israël, c'est David. Et d'ailleurs, le Mashiach qui est le descendant, il est descendant Mashiach ben David. Donc c'est, parce que ça dit, il est Melech HaMashiach. Mashiach, ça veut dire oin. D'accord? Il est oin. Ok. David aussi, il a été oin. Par Shmuel HaNavi. Lui, il est loin. Celui qui est oin et qui est descendant du roi David. Ça, c'est le Mashiach. D'une certaine manière, le Mashiach, c'est David HaMelech. Il est un Mashiach potentiel, etc. Parce que le Mashiach, sa puissance, c'est de descendre de David. Mais David, lui, il a une mère qui joue un rôle fondamental. Une mère, c'est-à-dire une ancêtre, qui joue un rôle fondamental. Donc, le travail, c'est d'expliquer en quoi elle est la mère, donc la source de Malchut Beth David. Alors, Abenu Bechaye, quand il parle des filles de Lot, dont je vous ai parlé précédemment, il fait remarquer la chose suivante. Il fait remarquer que Ruth, pourquoi est-ce que c'est quelqu'un qui, elle était une batte noire, si on peut parler comme ça, donc une femme qui avait les Sheva Mitzvot des Bnei Noach, 7 Mitzvot. Et maintenant, elle se convertit, elle accepte 613 Mitzvot. Et si vous soustrayez 613, si vous soustrayez 7 de 613, donc qui sont les Mitzvot qu'elle a pris sur elle en plus, la Gematria, enfin 613, moins 7, ça fait 606, vous pouvez vérifier. Et 606, ça peut s'écrire Resh, enfin Tav, Resh, Vav. Tav, Resh, ça fait 600, et Vav, ça fait 606. Et si vous mettez ces trois lettres dans l'ordre, dans un certain ordre, ça donne Ruth. Donc son nom, le nom de Ruth, est un nom qui dit qu'elle a accepté 606 mitzvot supplémentaires, donc qui, d'une certaine manière, on lui a donné ce nom-là, qui est le nom des 606, quoi. Juste en passant, ça ressemble à quelque chose qu'on va lire cette semaine, dans les psukim qui parlent de Sfirat HaOmer. Le mot Omer, comme vous savez, c'est une mesure. C'était la mesure de la manne qui tombait chaque jour pour chacun. Chaque jour, chacun recevait un Omer de manne. Donc c'est très étrange que ce korban, cette minchat Omer, elle n'a pas de nom, elle a un nom qui est son chiour, la mesure. C'est comme si elle s'appelait, je sais pas, kilo, enfin gramme ou litre. Bon, c'est pas le nom d'un corban. Un corban, comment il s'appelle litre? Il s'appelle gramme ou je sais pas, moi, si vous voulez autre chose, watt ou je sais pas, qu'est-ce que vous voulez quoi, ampère, n'importe, ampère, bon. Non, c'est pas ampère, c'est peut-être un nom. Mais donc watt aussi d'ailleurs. Mais peu importe. Mais en tout cas, c'est très étrange. Alors, elle porte son nom, c'est Omer. Et grâce à ce nom de Omer, tout le monde fait le passage entre Omer, entre la Minchat Omer et la manne, évidemment. Parce que c'était justement un Omer de manne qui tombait. Donc, juste en passant, vous voyez. Il y a cette idée que, curieusement, dans le korban de préparation de la Kabbalah Tatora, on a aussi cette idée que c'est la fonction, son nom c'est sa fonction quelque part. Il n'a pas d'autre nom que la fonction. Sa fonction c'est son chiour, quoi. C'est pas vraiment fonction parce que on aurait dû l'appeler, je sais pas moi, Minchat Atnufa, la Minchat du balancement. Ce qui n'est pas propre seulement au Homer, les Bikurim aussi, on les balançait, mais ok, au moins ça dirait quelque chose de ce qu'on fait avec ce Corban. Mais l'appeler son chiour, bon, c'est un peu étonnant. Bon, revenons à notre histoire là. Ruth, elle porte ce nom de 606, des mitzvot supplémentaires. Et l'autre sœur, celle qui a donné naissance à Naama, elle est une femme de Shlomo HaMelech, Naama, elle est Ammonite, et elle, c'est la mère de Rehovam. C'est la mère de celui qui est l'héritier de Shlomo HaMelech. Il faut savoir que en fait, sans Rehovam, il n'y a pas de Malchut David. Parce que la Malchut de David, c'est la royauté de David, c'est quelque chose qui concerne pas seulement David, mais c'est une promesse qu'Hachem a faite à David. David, Shlomo, et le troisième, c'est Rehovam. Donc, sans Rehovam, ça va pas, on n'a pas vraiment Malchut Ben David. Il est celui qui donne une dimension de Malchut, la maison de David, Malchut Ben David. Il n'y a pas de Ben David, il n'y a pas de maison de David, s'il n'y a pas au moins trois générations, si vous voulez, qui sont là, cette fameuse maison. Ensuite, ça s'effiloche, mais... Donc, quelque part, ces deux femmes, Ruth et Naama, c'est elles qui, ensemble, elles donnent ce qu'on appelle Malchut David. Malchut Ben David, la Malchut de la maison de David. Agmara dans Brachot, elle demande pourquoi Ruth s'appelle Ruth. Si on veut dire 606, on pouvait dire Tor, par exemple. Tav, Vav, Resh. Pourquoi le mettre dans l'ordre Resh, Vav, Tav? C'est aucun ordre, c'est pas un ordre. Pourquoi Ruth? Bien, je sais pas, Tav, Resh, Vav, on pourrait dire, ok, c'est un ordre décroissant de valeur, ou quelque chose, ou Vav, Resh, Tav. Mais pourquoi Ruth, c'est rien, c'est... Alors, la Gemara, elle répond que c'est parce qu'elle va avoir un descendant qui s'appelle David, et dont on dit que David riva la Shem Beshirot. Il a abreuvé Akadosh Baruch Hu avec ses cantiques, avec ses chants. Et Riva, ça s'écrit, il y a cette Reshvav qui est le début de Ruth. Pourquoi elle s'appelle Ruth? Parce qu'elle a un descendant qui va faire quelque chose de ce Reshvav ou Riva. Il va abreuver Hachem de ses chants. Et pourquoi dans ce cas-là, pourquoi tous les guérims ne s'appellent pas Ruth? Parce qu'ils sont tous dans cette situation d'avoir ajouté 606 mitzvot aux 7 mitzvot des Bnei Noir. C'est le Gaon qui explique, sur la Gemara, qui dit qu'elle a mis les bases de la Kabbalah ta mitzvot pour les guérims ultérieurs. C'est cette idée de Kabbalah ta mitzvot qui est la notion de guérim. Les guérim, ils acceptent les mitzvot. Et ça c'est elle qui l'a mis en place. On voit que les guérim d'avant, ils adhéraient aux idées, en quelque sorte. Il n'y avait pas encore, je sais pas d'ailleurs s'il y avait vraiment tellement de guérim à ce moment-là. Il y a eu des guérim, bien sûr, on connaît, mais... Le Gaon explique que le dévoilement de la royauté, ce qu'on appelle Gilui Malchut, ça veut dire que, comment est-ce qu'on est Megalé la Malchut? C'est que on est Mekabel, on accepte le roi, Beratson et Ubivchira. On accepte le roi volontairement, consciemment, on choisit d'accepter le roi comme roi. Bon, je n'ai pas besoin de répéter que un roi dans la Torah, c'est-à-dire le Melech, c'est obligatoirement un roi accepté par son peuple. Et ça va jusqu'à Hachem lui-même, qui on voit dans le Midrash. Les Bnei Israël, ils disent à Hachem, donne-nous des mitzvot. Il dit, mais je vous donnerai des mitzvot quand vous m'aurez accepté comme roi. Parce que c'est le propre du roi que de décréter, que de faire des mitzvot. Il faut d'abord que vous m'acceptez comme roi. Sinon, quelle est l'autorité des mitzvot? Vous avez des mitzvot à faire, mais devant qui vous êtes responsable? Bon, et la notion de mitzvah, je suis désolé, je répète, mais je crois que c'est fondamental. N'oubliez pas que le mot mitzvah, d'accord, il se lit avec la même graphie, il se lit metzavé, metzouvé et mitzvah. Et une mitzvah n'est une mitzvah que si on l'a fait parce qu'Hachem l'a ordonné. Si on fait la mitzvah parce qu'on la trouve super, bon, ouais, c'est bon pour la santé, ou c'est bon pour, bon, ou c'est intéressant intellectuellement, tout ce qu'on veut, et on n'a pas fait de mitzvah avec ça. Même si on fait cette pratique. Il y a un mot sur lequel je crois que j'ai déjà parlé, mais je ne me rappelle plus dans quel cours, de Chotam Sofer, qui dit quelque chose d'assez énorme. Il dit, mais c'est le Chotam Sofer, il dit que quelqu'un qui, toute sa vie, a fait toutes les mitzvot, mais parce que il a trouvé pour chaque mitzvah le tam de la mitzvah, le tam de la mitzvah lui plaisait, et donc il a fait la mitzvah par son tam, pour son tam, le Chotam Sofer dit, c'est l'apikoris. Il a fait toutes les mitzvot. Mais il ne les a jamais faites comme mitzvot d'Hachem. Il les a faites parce qu'il les a trouvées bien. Ça a l'air évident. Ça a l'air complètement évident. Seulement, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que même si je comprends dans mon étude, j'ai bien compris, j'ai développé une compréhension du mitzvah. Mais ça ne doit pas être ma motivation. Je fais la mitzvah parce que Hachem l'a ordonné. Point barre. À part ça, que je comprenne pourquoi Hachem a donné éventuellement cette mitzvah, éventuellement il est avant. Éventuellement je comprends pourquoi Hachem a donné cette mitzvah. Il est matov manim, très bien. Mais ça ne doit pas intervenir dans ma motivation. La motivation d'une mitzvah, c'est Hachem l'a ordonné. Point barre. Par exemple, si quelqu'un supposait que la halakha, elle est que si quelqu'un, pour des raisons médicales, doit manger à Yom Kippour, bon, et lui, il veut pas, c'est insupportable. Souvent, ça arrive quand vous arrivez à un âge plus avancé, vous devez manger à Yom Kippour. Et dans certaines fois, vous pouvez même pas manger des shiurim, c'est-à-dire même pas manger moins que des quantités, etc., qui seraient pas, ça s'appelle pas vraiment manger. Vous devez manger un vrai repas. Yom Kippour. Je sais pas, mon grand-père, un jour, le médecin avait dit qu'il devait manger. Bon, je sais pas si c'était vraiment absolument impératif, mais en tout cas, on lui avait préparé manger. On est revenu après Yom Kippour, ce qu'on avait préparé était encore là, et quasiment, il a donné à comprendre, quoi. Vous avez vraiment cru que j'allais manger à Yom Kippour. Mais en fait, si vraiment le médecin médicalement il était obligé de manger, il n'a pas fait Yom Kippour, hein. Il a fait son petit jeûne personnel, parce qu'Hachem il n'a jamais dit qu'il devait manger, qu'il devait jeûner. Lui il ne devait pas jeûner, il devait manger. Et donc si tu jeûnes, même si c'est le jour du Yom Kippour, tu n'as pas jeûné Yom Kippour, tu as fait ton petit jeûne personnel. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce qu'Hachem a demandé, et du coup ça devient une avéra, parce qu'on n'a pas le droit de il n'avait pas le droit de jeûner en ce cas-là. Donc, comment est-ce qu'on accepte un roi? D'accord, on peut dire, on met un badge, je l'accepte comme roi. Mais comment concrètement on accepte un roi? On accepte un roi, un roi c'est quelqu'un qui, a priori, prend des décisions. Et j'accepte ses décisions. C'est comme ça. Je l'accepte comme roi. Et à partir du moment où on l'accepte pas comme roi, comme celui qui va décider, qui nous dit quoi faire, ben, il n'est pas roi. Le roi David lui-même, quand son fils Absalom s'est révolté contre lui et que la majorité du peuple a suivi Absalom, il n'était plus roi. Vous savez que quand quelqu'un fait une faute, il apporte un korban khatat, il apporte un korban qui est décrit dans la Torah. Mais si celui qui a fauté, c'est un roi ou un assis, etc., il n'apporte pas le même korban. Ouais, il apporte un korban plus conséquent. Si monsieur tout le monde, il apporte un agneau, lui, il apporte un taureau. Parce que il est roi, il ne peut pas amener des petits trucs. Or, David Améler, pendant que son fils Absalom était roi, Il apportait un corban, il apportait les corbanes comme monsieur tout le monde, pas comme roi. Il n'était pas roi. Et après, quand Avshalom est mort, alors le peuple est revenu chez lui, il est redevenu roi. Donc la Kabbalat Malchut, accepter la Malchut, c'est accepter les lois énoncées par le roi. Et donc le Giloui Malchut, le dévoilement de la royauté, c'est cette acceptation. Mais l'acceptation sans contrainte, volontairement. Alors maintenant, c'est donc, ça s'appelle un Giloui Malchut, un dévoilement de la royauté. Le dévoilement de la royauté, il est d'autant plus grand que l'envie de se révolter est plus grande. Si l'envie de se révolter est très grande et que malgré tout, on accepte la royauté, c'est un plus grand Giloui Malchut. Le but étant toujours, Hachem a créé le monde pour que Hachem soit Melech Haolam, que le monde entier l'accepte comme roi. David Amelech, il vient de Moab. Moab, c'est la plus grande Touma, on va tout de suite l'expliquer. Et donc, quand c'est grâce à David ou par David que on est amené à reconnaître la royauté d'Hachem, puisque lui vient vraiment du plus bas, du plus révolté en quelque sorte, celui qui reconnaît le moins Hachem, c'est Moab, alors il est celui qui fait le plus grand Giloui Malchut, qui est le plus grand dévoilement. C'est pour ça que il est l'ancêtre du Mashiach, qui sera l'artisan, celui avec lequel il y a le dévoilement maximum de la royauté divine. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est quoi, pourquoi Moab est tellement bas? Ruth était la fille de Eglon, roi de Moab. Moab, c'est la Touma, on va voir. Donc, une princesse de Moab, c'est la personnification de la Touma, voilà, le fort Touma. Ruth, elle descend aussi de Balak. Balak, dit l'Agmara de Nazir, c'est celui qui a été Mekalel, l'univers, la création. Elle est donc aussi une descendante de Lot, dont le nom veut dire Klala, Lot, Laet, en araméen, ça veut dire maudire, Klala. Et malgré ça, elle qui vient de ce qu'on appelle Sdemoab, les champs, les étendues de Moab, elle vient avec sa belle-mère, Naomi, et avec sa conversion, elle donne le plus grand dévoilement possible de la Malchut, d'Hachem. Ok? Parce qu'elle vient de Moab. Alors maintenant, vous savez qu'il y a différents noms divins. Il y a Hachem, il y a Elohim, il y a Shakai, il y a Adnout, etc. Le nom divin qui correspond à la Malchut, celui que Avraham Avinu a donné à Hachem quand il a reconnu Hachem comme Melech dans le monde, c'est Adnout. Alef Dalet, Nun Yud. Alors, regardez, c'est un tout petit peu de calcul. La gematria de Adnout, de Aleph Dalet Nun Yud, c'est 65. Maintenant, on peut aussi écrire Adnout Malé, Vous savez, vous vous souvenez probablement, vous savez peut-être comment on écrit Malé. C'est-à-dire, au lieu d'écrire Aleph, seulement la lettre Aleph, on écrit Aleph Lamed Fe. On écrit le mot Aleph. D'accord? Donc, au lieu de compter pour 1, ça compte pour 1 plus 30 plus 80. D'accord? Pour Aleph Lamed Fe. Aleph. Et ensuite, la même chose pour Dalet. Dalet et Tav. Et pour Nun, Nun, Vav, Nun. Et pour Yud, Yud, Vav, Dalet. Donc, si maintenant on fait ce total-là, on obtient 671. Et maintenant, si, donc ça s'appelle la gématria pleine du nom Adnout, en décomposant chaque lettre, en écrivant chaque lettre. Donc, si maintenant, donc ça c'est le plein, et l'extérieur, ça, c'est la gématria de qu'on avait dit de 65, de Aleph Dalet Nunyun, si on enlève l'extérieur du plein, il reste l'intérieur. Donc 671 moins 65, je vous le donne pas en mille, et vous savez bien combien on va trouver, on trouve route, on trouve 606. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on partage le nom divin qui correspond à la malchoute, l'Ev Daled Nunyud, en deux, une partie dévoilée, une partie cachée, la partie dévoilée c'est l'Ev Daled Nunyud, les 65, et la partie cachée, eh bien, route est la partie cachée du nom divin qui indique la malchoute. On dit d'Avraham Avinu, on a dit qu'Avraham Avinu est Trilat HaGerim. Il est le premier des Gerim. Et il est le premier à avoir nommé Hachem Adon. Avoir utilisé, justement, le nom de la malchoute, l'avoir reconnu comme roi. Et Ruth est la première qui a en quelque sorte renouvelé le nez et l'âme du nom d'Adnout, la partie cachée du nom d'Adnout. Ça, c'est une première chose. Donc 65 et 671 moins 65, Ruth. Le nez et l'âme, la partie cachée du nom. Le Gaon fait remarquer, je pense qu'il y a d'autres qui l'ont remarqué aussi, que Moav, la gématria de Moav, c'est 49. Ruth a donc dévoilé la couronne de la malchoute, la gloire divine cachée, elle l'a dévoilée à l'endroit où il y avait le moins de chances qu'il puisse être dévoilé. Là où il était le plus caché, en Moav. Parce que Moav, c'est 49, c'est 40 quoi? 49 quoi? Moav, c'est ceux qui possèdent et fortifient la racine de la Touma dans le monde. La Touma, elle a 49 portiques, 49 Sheharim, et Moav, c'est les 49 Sheharim. La Touma, dans toute sa gloire, si vous voulez, c'est Moav. Le Gaon explique que la racine du mal dans le monde, c'est ce qu'il appelle les deux filles de Lot. Et il dit que les deux filles de Lot, ça correspond au mal, c'est-à-dire au Yetzer Hara, dans les deux formes du Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara qui est appelé Tavani, le Yetzer Hara qui est du type désir, envie, et il y a aussi un Yetzer Hara qui est du type Kaasani, qui est du type colère. Bon, à part ça, ça correspond, pour ceux auxquels ça dit quelque chose, aux clipotes de Ishmaël et d'Esav. Mais... Donc, c'est la malchoute de David. C'est-à-dire la malchoute que Ruth fabrique, en fait. elle doit inverser toute la Touma de Moab en Kvod Malchut. C'est-à-dire que les 49 panim tamé, les 49 visages, aspects de la Touma, doivent être transformés en 49 panim taor. C'est comme ça, seulement comme ça, que le Mashiach pourra dévoiler le keter de la Mloucha, la couronne de la royauté. Il faut faire d'abord un travail de transformation de toute la Touma en Tahara. Il faut toute la richesse de la Touma. Richesse au sens de, c'est, si vous voulez, Moab, c'est tout le spectre de la Touma. Et bien maintenant, ce spectre-là, qui est un spectre dans la négativité, si vous voulez, il faut le retourner en positivité. Il faut que ça devienne Tahor. Et l'idée que le Tamé doit devenir Tahor, si vous voulez, d'autres termes, on pourrait dire que tout ce qui est de l'ordre du Yetzer Hara doit devenir Yetzer Hatov, doit devenir une énergie, une pensée qui va dans le sens du bien, en fait. Ça, on le connaît un petit peu. On connaît parce que c'est ce qu'on explique avec la tshuva me'ahava. Vous vous souvenez? Il y a deux sortes de tshuva. Une tshuva mi'ira, la tshuva qu'on fait par crainte d'Hachem. Et puis il y a la tshuva qu'on fait par ahava, par amour d'Hachem. Elles n'ont pas le même effet. La tshuva qu'on fait par crainte d'Hachem, quand la tshuva est bonne, eh bien, elle ramène la balance au niveau zéro. C'est-à-dire, toute la négativité est annulée. Mais on est à zéro. Bon, on a enlevé toute la partie négative, mais c'est zéro. La tshuva, mais ahava, vous souvenez, elle est à ce point puissante qu'elle retourne complètement le négatif en positif. C'est-à-dire que si on était à moins 35 dans le négatif, avec une tshuva me'ahava, on ne se retrouve pas à zéro. On se retrouve à plus 35. Comment du négatif peut devenir à ce point-là positif? Alors, je ne peux pas dire exactement jusqu'où ça va, mais on comprend bien que, par exemple, quand quelqu'un a compris, il a fait tshuva sur les fautes qu'il a commises. Ben, cette fois-ci, la faute, avoir commis la faute et avoir pris de la distance, ça fait qu'on a un avantage. On va pas être séduit par la faute. Si le Yetzer Hara représente la combine, là, je dirais, je connais. C'est pas vrai que c'est positif, que c'est, ça donne de, c'est jouissif et tout ça, c'est après le réveil va être terrible. D'accord? Et donc, quelque part, l'expérience négative, quand j'ai compris exactement ce qu'elle était réellement, elle va m'aider, elle va me donner un avantage. Je pensais plus que ça, probablement. Je ne sais pas vraiment le décrire. Le plus que ça. Mais au moins comme ça. Donc, je ne suis pas simplement à zéro. Parce qu'à zéro, je serai éventuellement de nouveau séduit par la faute, par la chose interdite. Mais maintenant, je ne suis plus séductible, séduisible par la même histoire. Je la connais, je sais très bien que cette drogue, elle ne donnera pas ce qu'elle promet. Ou en tout cas pas à long terme. Donc je ne me serai pas à voir. Je ne suis pas à zéro. J'ai un avantage maintenant. Donc j'ai fait de cette mauvaise expérience, de cette faute que j'ai commise, sur laquelle j'ai fait tshuva, premièrement, pour moi-même, j'ai un avantage, et puis je peux aider les autres. Je peux expliquer aux autres, les aider, leur dire que j'ai fait l'expérience et que c'est pas vrai ce que le Satan dit, que c'est super, tu vas voir, tu es jouissif et tout ce que tu veux, c'est pas vrai. Ben je peux témoigner, je l'ai vécu et je peux en témoigner, je sais de quoi je parle. C'est vrai pour les fautes, c'est aussi vrai pour une souffrance, etc. Quelqu'un qui a passé par une épreuve, eh bien, il doit se considérer comme qualifié. Enfin, il doit voir est-ce que ça l'a bien qualifié pour aider les autres, ou bien à franchir cette étape difficile, ou bien à ne pas tomber dans telle et telle erreur. C'est-à-dire faire quelque chose des bêtises que j'ai faites. J'en fais quelque chose pour moi et pour les autres. Donc il s'agit de faire ce travail d'inversion de la Touma en Tahara. Du négatif en faire du positif. La Gemara, dans le Hakama, elle rapporte sur le Passouk où Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de Tzor et Midianim, d'attaquer les Midian. Et alors la question là-bas, elle se pose, pourquoi pas attaquer aussi Ammon et Moab? Et là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il dit non, je veux pas que tu les attaques, parce que je t'ai prédot tovot yeshli l'otzi mehem. J'ai deux choses précieuses, deux prises précieuses que je veux sortir de ces deux peuples, de Ammon et Moab. C'est évidemment Ruth et Naama. Quelque part, le fait qu'il y ait dans chacun de ces deux peuples une femme que Hachem veut sortir de là-bas, et la sortir et la mettre au bon endroit, mettre chacune de ces femmes à un endroit où elles vont construire Malchut Beth David. Ça sauve le peuple tout entier. Moab et Ammon et Moab ne sont pas anéantis. Ils sont pas détruits parce que Hachem voulait encore sortir de ces peuples, Ruth et Naoma. Le Gouari, il explique que Ruth, elle va se Yeshli le Hotsi. Je dois encore faire sortir. Comment elle va sortir? Elle va se séparer, parce que Preda, ça veut aussi dire se séparer. Elle va se séparer, Ruth, de tous les autres gens de Moab, parce qu'elle va réaliser un pasouk. Le pasouk en question, il est dans Tzfania, dans le Navi Tzfania. Le Navi dit, qui az, alors, et fochelamim, safa brura, likro, kulam b'shem Hashem, l'ovdo b'shem echad. À ce moment-là, à la fin du temps, je ferai en sorte, dit Hachem, que tous les peuples parlent la même langue et qu'ils servent, ils appellent Hachem et qu'ils sont prêts à le servir tous ensemble. C'est ça que Ruth va faire. Elle va construire la Malchut Beth David. La Malchut Beth David, c'est la Malchut qui va faire réussir le projet divin. Ça qui, ultimement, c'est cette Malchut Beth David qui va produire le Mashiach. Bon, alors, maintenant, il faut dire, il faudrait qu'on réfléchisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Mashiach, il va pas faire le job tout seul. Le Mashiach, il va venir parce qu'on a préparé sa venue. Il vient plutôt comme une cerise sur le gâteau. Il aura encore quelques petites choses à faire, le Mashiach. Mais le travail doit être fait en amont. Il faut qu'il ait une génération dans laquelle il puisse être, dont il puisse être le Mashiach, le roi. L'exemple, on a un exemple, quelqu'un qui était, vous connaissez, quelqu'un qui était presque le Mashiach. C'est le roi Chizkiyahou, Ézéchias. Lui, il était presque Mashiach. Mais il était au milieu d'un peuple où tout le monde étudiait la Torah. Tout le monde. C'est lui qui les y avait poussés, incités, peut-être avec des menaces. Mais en tout cas, il les a incités à étudier tous la Torah. Et tout le monde étudie la Torah, et donc lui, il pouvait être Mashiach, parce que le peuple, il y avait le peuple adéquat, et il y avait la personne adéquate. Bon, il a flanché au dernier moment. Mais bon, on voit très, ça nous donne quand même le récit de cette histoire-là, de ce qui lui est arrivé, nous donne une idée de ce que doit être le Mashiach. Le Mashiach, c'est quand même un roi d'un peuple qui est tout entier à l'étude de la Torah. Il y a dans l'écrit de certains élèves de Gaon de Vilna, Nachem Mendel Shklov, c'est lui qui fait remarquer que si maintenant tu prends la Gematria de Ruth et celle de David, le 606 et 14, ça donne 620. Le 620, c'est le Keter, c'est la couronne. C'est aussi le nombre de mots, le nombre de lettres, pardon, dans un Seret Adibrot. 620. Donc, Ruth David, ça fait Keter. Bien entendu, la Melucha, la royauté, Ruth David, la royauté de David, donc, qu'on appelle, elle se dévoile uniquement quand la gloire d'Hachem, la gloire cachée, le côté Ne'elam, va se dévoiler. Keter Malchut, il se dévoile dans les Aseret HaDibrot. La royauté divine, elle se dévoile dans les 10 commandements, dans les 10 paroles. Ces fameuses 620 lettres, qui correspondent à Kol HaTorah, Aseret HaDibrot, ça représente toute la Torah. C'est toute la réalité, puisque la réalité, c'est la Torah. Et c'est aussi, au niveau des mitzvot, les 613 mitzvot min HaTorah, plus les 7 mitzvot des Rabbanan, et de nouveau 620 mitzvot. Maintenant, la Gemara dans Shabbat, elle dit que à Shavuot, enfin, le texte il dit Atzeret, parce que le Chazal n'utilise pratiquement jamais le mot Shavuot, il utilise le mot Atzeret, qui est la clôture, parce que c'est la clôture de Pessah. Pas de Chagamatzot, mais de Pessah. C'est marqué qu'à Atzeret, donc au don de la Torah, c'est la fin de la Zohama. C'est-à-dire, on s'est retrouvé comme Adam Arishon avant la faute. La Zohama, c'est cette saleté que le Nahash a déposée dans Chava, c'est-à-dire toute l'humanité a une salissure essentielle qui vient du Nahash, qui vient de la faute initiale. Et un Matan Torah, ça a été annulé. Un Matan Torah, les Bnei Israël se sont retrouvés dans la situation d'Adam Rishon avant la faute. En particulier, ça veut dire qu'ils se sont retrouvés immortels. On a retrouvé l'immortalité. Évidemment, comme vous savez, on a tout reperdu avec la faute du veau d'or. Mais ça vient, cette disparition de la Zohama, c'est la résultante d'une bonne Sfirata Omer, si on peut parler comme ça. Bonne, ça veut dire une Sfirata Omer durant laquelle on s'est élevé à travers tous les 49 niveaux jusqu'au 50e jour. Et dire que Ruth et David, ont en eux la racine de l'impureté. Ils viennent de Zdemoab, ça vient de Moab, mais ils ont expulsé les 49 degrés d'impureté de Moab. Comment est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ont élevé toute la réalité au niveau du 50e portique et ils ont transformé tous les 49 panim de Touma en 49 panim de Tara. D'où est-ce qu'on voit ça? On voit ça aussi. C'est même Menachem Mendel Shklov qui a dit que Ruth David, ça donne Keter. C'est lui qui fait remarquer aussi que Sde Moab, champ de les étendues de Moab, c'est la gematria de Mashiach. Ça veut dire le Keter Malchut, la couronne de la royauté supérieure, donc, ça se dévoile quand Sde Moav s'ajoute à la lumière du Mashiach. Sde Moav retourné, donc, s'ajoute. Donc, la Touma, c'est une grande puissance. Donc, tu la retournes, c'est-à-dire tu prends la puissance en question et tu la mets au service de la Avoda d'Hachem, au service d'Hachem. Alors, c'est la Gemara dans Chagiga qui dit que, c'est Tosfot plutôt, c'est la Gemara dans Chagiga qui dit que David est Niftar à Atzeret. Il est Niftar. Lui, il dit simplement Tosfot, il dit que David, il est décédé à Shavuot. Mais la Maseret Sofrim, elle dit qu'il est décédé, mais qu'il était déjà né aussi à Atzeret, à Shavuot. Et la Maseret Sofrim, elle dit, c'est pour ça qu'on lit Megillat Ruth. Parce qu'on trouve dans Megillat Ruth le Yichus. Ça nous donne le Yichus, c'est-à-dire l'ascendance positive, la puissance de David. Et alors là, tout le monde pose la question. Quoi. On a besoin de lire toute une Megillah pour nous dire que David était descendant de Ruth et de Boaz. On pouvait le dire plus rapidement, hein. C'est pas besoin de relire toute une Megillah. En vérité, c'est parce que David, il a un rapport beaucoup plus profond que cela avec Atzeret, son essence. Il a à voir essentiellement avec Shavuot. C'est marqué que, comme vous savez, probablement ça, c'est écrit dans la Torah, Zé Sefer Toldot Adam. Toldot Adam, c'est le livre des Toldot d'Adam. Chazal dit, ça veut dire que HaKadosh Baruch Hu a montré à Adam Arishon toutes les générations. Passé en revue toutes les générations. Toldot Adam. Et dans la totalité des générations qu'il lui a montrées, Adam a vu David. Il a vu ce David et il a vu que David avait 3 heures à vivre. David allait naître, 3 heures et mourir. Et Adam Arishon a demandé à Hachem pourquoi comme ça, c'est quoi ça? Il a eu la fameuse réponse terrible. La même réponse que celle que Moshe Rabbeinu a eue quand il a demandé comment c'est possible, ce qui arrive à Rabbi Akiva, comment est-ce qu'on peut imaginer ça. Il a dit, Kachalta b'marshava. C'est comme ça, c'est monté comme ça à ma pensée. C'est-à-dire, tu peux pas le savoir. C'est une pensée divine. Donc, tu peux pas savoir. Mais il a négocié. Madame Marichal a négocié, il a demandé, est-ce que dans ce monde-là que tu me montres, est-ce qu'on peut faire des échanges, etc. Et Hachem a dit oui. Alors David a décidé de lui donner 70 ans de sa vie. Et donc David Amelach, il a vécu 70 ans, qui sont les 70 ans que Adam lui a donné. Et Adam n'a vécu que 930 ans au lieu des 1000. Il aurait dû vivre. Donc d'une certaine manière, bon, David, il vit d'une certaine manière comme Adam Arishon, mais comme Adam Arishon d'avant la faute. Parce que ça, c'est une question de Toldot Adam, c'est quand Hachem lui a tout montré. Mais c'est quoi cette histoire? 3 heures, 70 ans? L'explication, c'est que le chet d'Adam Arishon, il a comme conséquence, la mort existe dans le monde. Le tikkun, la réparation de cela, c'est David qui va le fournir. C'est lui qui va faire en sorte que Bila Mavet Anetzach va annuler la mort pour l'éternité. C'est-à-dire, David est celui qui fait que la condition de mortel qui est la nôtre depuis la faute du Hegel qui répète la faute d'Adam, avec Triat HaMetim, David va amener le monde jusqu'à son but, c'est-à-dire effectivement cette disparition de la mort. C'est pas de vivre éternellement, c'est pas une question de quantité. C'est pas que au lieu de vivre 70 ans, on vit X fois 70 ans. La qualité de vie est différente. C'est pas simplement qu'on vit plus longtemps. C'est un autre type de vie. Qu'est-ce que c'est La Gemara, elle dit, elle explique. Vous connaissez que David Ameler, en fait, il méritait pas du tout de faire cette faute avec Bathsheba. Mais que la Gemara, elle dit, on va pas rentrer là-dedans pour l'instant, on en reparlera plus tard, que ce qu'il a fait, c'est pour enseigner la possibilité de la tchouba. De David, il est dit qu'il personnifie le pasouk qui dit « Neum ha-gever ukam al », c'est-à-dire celui qui fait tenir « ula shel tchouba », le « hol » de la tchouba. C'est-à-dire, au moment de la création, ce qui existait, c'est seulement la possibilité de la faute. Bon, il fallait bien qu'il y ait une possibilité de fauter, sinon, si c'était impossible, Adam et Chava n'auraient pas pu fauter. Donc, au moment de la création, la faute, elle existe seulement sous forme de possibilité. Or, David, qui vient réparer la faute, il existe lui aussi seulement sous forme de possibilité. Ces fameuses 3 heures, c'est une possibilité, c'est une façon de... Puisque l'essentiel de David, c'est de venir montrer la tchouva, c'est seulement possible après la faute. Donc tant qu'il n'y a pas de faute dans le monde, David ne peut pas exister. Il est seulement sous forme de potentialité. Et c'est pour ça qu'Adam lui donne 70 ans de ses années pour réparer la faute. À la limite, si David existe, c'est seulement grâce à la faute de Adam. On voit dans les premiers paragraphes du Hallel, qu'on appelle Hallel Amitzri, que la construction de Malchut Bet David ne peut se faire que par la remémout, comme on dit, Kosh Bochou, il élève. Mais Ashpot Yarim Evion, de la décharge publique, Hachem sort le pauvre et il l'élève. au plus haut. À partir de cet au plus bas, l'élève au plus haut. Et ça, c'était ce que David pensait de lui-même. David pensait qu'il était au plus bas, il était dans la poubelle, c'est Moab. Il est descendant de Moab. Et donc, on voit dans le Hallel que c'est comme ça que ça peut arriver. Ça peut pas arriver autrement. Il faut d'abord toucher le fond. C'est du plus profond, du plus bas que peut venir le plus élevé, en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle le mot Hallel lui-même, c'est la fameuse Gematria de 65, c'est-à-dire qui correspond au nom divin Adnut, Alev d'Alev Nunyud. Le Shla Kadosh dit que Adam, ça c'est très connu, que Adam, Alev d'Alev même, c'est Adam David Mashiach. Parce que le tikkun d'Adam va se faire par Mashiach ben David. Alors, on a vu au Sinaï que la Zohama, elle s'est arrêtée. Donc, d'une certaine manière, qu'est-ce que c'est Shavuot? C'est vrai. Shavuot, c'est une nouvelle édition de la forme humaine, un homme immortel. Et c'est ça qui explique, si on peut parler comme ça, la naissance de David à Shavuot. Parce que David, il existe, si vous voulez, parce que il est lié à la racine de cette possibilité qu'il y a d'annuler la Zohama. Au 50e jour, après 49 jours bien comptés, naissance de David. Puisque maintenant les 49 tamés sont devenus Tahor. Et David, qui vient de ces 49 de Touma. Finalement, il vient de ces 49 de Touma qui sont interdits d'entrer dans le Kaal. Mais il y a un travail qui est fait que il y a quelque chose de ce Moab qui peut entrer dans le Kaal. Ce sont les femmes. Et donc, Imachel Malchut, Ruth. Donc le peuple juif est en quelque sorte il existe, il est dans le peuple finalement. On récupère grâce à ce on va récupérer toute cette force négative de Moab. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il y a deux fois Adam Arishon. Il y a l'Adam Arishon d'avant la faute, et il y a un nouvel Adam Arishon qui naît avec la naissance de David, dont la vie vient du Adam Arishon. Premier, les 70. Donc, c'est-à-dire, les deux Adam Arishon, l'Adam Arishon d'avant la faute, et l'Adam Arishon qui naît, le David, qui naît à Atzeret, ils viennent de la même source, en fait. Ils viennent de cette vie éternelle. Ils ont à voir, eux, ils sont immortels. Et à la question que je vous ai dit, quand Adam Arishon a posé la question sur David qui vit que 3 heures, Hachem a répondu. Il a dit, kach altab be marshaval fanaï. Ça veut dire, il lui a dit, cette gouvernance-là, qui fait que David peut vivre seulement 3 heures. Ça vient du monde de la pensée. Elle est incompréhensible dans ce monde-ci. Ce qui a été dit à Adam, ce qui a été dit à Moshe Rabbeinu, sur Rabbi Akiva, comme je vous ai dit. On ne peut pas comprendre. Dans ce monde-ci, on ne peut pas comprendre du tout la souffrance de Rabbi Akiva. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que David, il appartient au monde, au Olam Haba, d'une certaine façon. David Hamelech, en tout cas, il appartient au Olam Haba. Il est incompréhensible dans ce monde-ci. Il n'existe pas dans ce monde-ci. Il est dans Olam Haba. comprend que ce soit d'Adam Kodemachet, avant la faute, que vienne la vie de David. Puisque la racine, le shoresh de David, c'est un retour à une vie sans Zohama. Sans cette saleté. Mais la capacité de David, c'est de faire que, même après le Hegel, quand la Zohama est revenue, avec Triat HaMetim, tout peut revenir. Cette puissance-là, elle vient de Ruth. C'est Ruth qui a changé le Sde Moav. Les champs de Moav, c'est Ruth qui a fait que ça peut devenir le, pour reprendre une expression de la Torah, c'est Sade Asher Berachro Hashem, un champ qui a été béni par Hashem, c'est ce qui va produire le Mashiach, en fait. C'est ce qu'on dit, effectivement, en disant que Keter, que la racine, que la couronne, c'est Ruth David, 606-14, ensemble, Ruth et David dévoilent la couronne de la royauté d'Hachem. Et donc, quand on dit Ima Hachel Malchut, on parle de la M, de la mère. C'est pourquoi? C'est parce que c'est grâce à elle que Ruth David dévoile le Keter. C'est-à-dire, c'est pas simplement Ruth et David par lui-même. Parce que David, c'est seulement grâce à Ruth qu'il est David. Parce qu'elle, elle a retourné complètement la situation. Donc, Ruth David, c'est Ruth et Ruth David, en fait, qui dévoile la couronne. Et tout ça s'est mis en marche comment? Ça se met en marche avec la descente des 620 lumières qu'il y a dans les 620 lettres de la Aseret HaDibrot. Quand Naomi a donné l'ordre à Ruth de rejoindre Boaz, elle lui a dit, tu dois mettre des vêtements de Shabbat. Pourquoi? Parce que elle descendait pour s'unir à Boaz, elle descendait pour amener la menoucha au monde. La menoucha, c'est cette sérénité, ce calme, amenée ultimement par David Malka Meshicha, par le Mashiach ben David. Donc, les temps messianiques vont amener le monde à une bechina, un aspect Shabbat. Alors, vous savez bien que Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Shabbat, c'est seulement un goût de Olam Haba. Et le Olam Haba, c'est un Shabbat plein, en quelque sorte, un vrai Shabbat. C'est pour ça que le zivoug, le mariage de Ruth et de Boaz, il nécessite les vêtements de Shabbat. Les vêtements, c'est le kavod. Le kavod de Shabbat Malketa. Le kavod du Shabbat, c'est ça. C'est pour ça. Parce que, en fait, il s'agit d'amener ce Shabbat ultime. Il faut déjà mettre les vêtements de Shabbat au moment du mariage de Ruth et de Boaz. Voilà. On a dit maintenant quelques petites choses sur Imash El Malkout. La prochaine fois, Imir Tsachem en parlera de David lui-même. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.